BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Bot.
18h, il sera 18h dans une grosse minute. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mardi, nous avons Emmanuel Macron qui est en train d'achever sa visite d'État du côté de l'Allemagne. Il tient une conférence de presse en ce moment à Berlin avec le chancelier Olaf Scholz. On en parlera bien sûr tout au long de la soirée, notamment avec nos experts qui arrivent bien sûr en direct dès 18h30 dans Good Evening Business. Avec eux, on déroulera tous les autres grands titres de l'actualité ce soir. Il y a cette fameuse commission des Républicains, vous savez, sur le creusement de la dette depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Cette commission, elle est arrivée à l'Assemblée. Elle a commencé à auditionner le ministre du Budget, Thomas Cazenave. On l'écoutera tout à l'heure, bien sûr. Bruno Le Maire, qui estime, lui, que la bataille contre l'inflation est gagnée, l'a dit ce matin. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu trop optimiste? Il nous a habitués à quelques mauvaises surprises. Malheureusement, on posera la question. Et puis, on a cette étude qui nous montre, qui nous confirme que si les Français ne se remettent pas à faire vite, vite, tout de suite, là, maintenant, de nombreux bébés, on risque de le payer, nous, sur le prix de nos pensions d'ici une grosse vingtaine d'années, étude qui est sortie ce matin. Voilà le programme non exhaustif jusqu'à 20h. Et puis, dans 10 minutes, c'est la grande interview avec Edwige Chevrillon. Edwige qui reçoit ce soir Alain Taravella, le président fondateur du groupe immobilier Altarea. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Oui, mais avant de parler de tout ça, on voudrait parler des cadres, parce qu'on a la confirmation qu'en France, les cadres, vous savez, sont toujours très très recherchés. 60% des entreprises, nous dit l'APEC, ont connu des difficultés de recrutement l'an dernier à cause de la pénurie de candidats. Mais il y a un autre problème, ajoute l'APEC, qui pourrait encore noircir le tableau, c'est que les processus de recrutement des entreprises sont de plus en plus complexes. Et ça refroidit les cadres pour le coup. Léo Dumas nous raconte ça.
Les cadres n'en peuvent plus de la multiplication des échanges. 90% de ceux déjà en poste s'accordent à dire qu'au maximum, 2 ou 3 entretiens sont idéaux quand aujourd'hui ils sont trop énergivores et mal ajustés selon eux. Mais ce n'est pas pour autant que les candidats ne veulent plus discuter. Au contraire, ils demandent plus de réciprocité dans les échanges, détaille Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC.
Il y a une envie qu'il y ait du temps, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse poser des questions, que ce soit interactif, que ce soit humain, et pas que ce soit un processus trop fermé et trop stéréotypé et trop mécanisé. Ça, c'est ce qu'exprime des candidats.
Et dans les discussions, il faut plus de clarté, demandent les cadres. Selon eux, le salaire est évoqué trop tardivement. 65% aimeraient le connaître avant tout entretien physique. Les descriptions de postes aussi sont souvent trop imprécises. Alors pour éviter les déconvenues, les entreprises doivent s'adapter, estime Gilles Gâteau.
Dans l'attractivité d'une entreprise, la façon dont elle considère ses candidats va être vue par les candidats en question comme une façon dont elle considère ses salariés.
Et dans une situation de quasi plein emploi chez les cadres, il y aura pour l'APEC 2 clés du succès chez les recruteurs, la souplesse et la rapidité.
Voilà les cadres qui trouvent les entretiens d'embauche et les processus de plus en plus lourds, de plus en plus complexes. Étude de l'APEC donc est sortie aujourd'hui. Dans l'actualité ce soir, on voulait aussi vous reparler des têtes de liste aux élections européennes. Qui ne se quittent plus. Hier soir, elles étaient toutes, vous savez, sur le plateau de BFM TV pour un grand débat. Ce matin, figurez-vous que tout le monde s'est retrouvé pour un autre grand oral. Cette fois devant les syndicats agricoles. Tout un programme, là aussi. Pauline Tadevin.
Les agriculteurs veulent plus de pragmatisme au niveau européen, plus de dialogue avec ceux qui prennent des décisions pour qu'elles soient davantage adaptées à ce qui se passe dans les corps de ferme. Ils veulent que la souveraineté agricole et alimentaire soit placée au cœur du mécanisme pour garantir la production sur le sol européen avec un état des lieux annuel. Ils prônent des règles plus simples, harmonisées entre les États membres, par exemple en matière de produits phytosanitaires. Ils veulent éviter la concurrence déloyale des pays hors Union en imposant des clauses miroirs ou des clauses de sauvegarde. Parmi leurs préoccupations, évidemment, le renouvellement des générations d'agriculteurs. Ils réclament une meilleure rémunération sur la base d'un Egalim européen. Ils plaident pour adapter les aides existantes aux nouveaux aléas climatiques et pour augmenter le budget de la PAC. Surtout, ils attendent des interlocuteurs bien au fait des sujets agricoles pour défendre leurs intérêts au Parlement européen.
Voilà le grand oral donc de toutes les têtes de liste européennes ce matin. Il y avait la FNSEA notamment. ou encore les jeunes agriculteurs. Nouvelle orale pour tous les candidats à cette élection du 9 juin prochain, dont on reparlera bien sûr évidemment ce soir sur BFM Business d'ici 20h bien évidemment. 18h03, on va partir au Royaume-Uni. Vous savez qu'il y aura là-bas des élections législatives le 4 juillet prochain. Le parti travailliste qui est dans l'opposition fait la course en tête dans les sondages et continue de taper très fort sur les conservateurs. Écoutez par exemple ce qu'a dit aujourd'hui celle qui pourrait devenir ministre des Finances en cas de victoire du camp travailliste. Elle s'appelle Rachel Reeves. Elle enfonce le clou littéralement sur les conservateurs.
Les conservateurs ont échoué sur l'économie. Leur plan ne marche pas. Dans le monde des affaires, le Labour est reconnu comme le parti naturel des entreprises, le parti de la croissance et le parti de l'entreprise. J'aimerais que les impôts soient plus bas, mais contrairement aux conservateurs, je ne prendrai pas d'engagement non financé car la voie de la ruine passe par des engagements non financés.
Voilà, Rachel Reeves, donc potentielle ministre de l'économie et des finances, potentielle chancelière de l'échiquier, comme on dit, en cas de victoire des travaillistes, élections législatives donc au Royaume-Uni. Ça sera le 4 juillet prochain. En France, dans l'actualité des entreprises, il y a le dossier Atos. Bruno Le Maire l'a promis ce matin, les activités de contrôle des centrales nucléaires détenues par Atos resteront bien sous le contrôle de l'État. Elles sont évidemment jugées stratégiques. Elle pourrait être éventuellement reprise par EDF ou bien, je cite, une entreprise proche d'EDF. Voilà donc ce qu'a déclaré ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances. Sinon, alors, c'est tout un symbole. Caddy, célèbre marque de chariot Caddy, dont le nom est entré dans le langage courant. Le groupe qui avait été repris il y a 2 ans vient de demander à nouveau son placement en redressement judiciaire. Je dis à nouveau parce que c'est la 4e fois en l'espace de 12 ans. Le groupe qui est basé en Alsace emploie aujourd'hui près de 110 salariés. Et puis, dans l'actualité toujours des entreprises, on a Porsche. Porsche qui, à son tour, se met au vert. Il fallait bien que ça arrive. Le groupe vient de dévoiler, figurez-vous, la première version hybride de sa fameuse 911. Justine Vassogne.
Il sera désormais possible de s'offrir une 911 hybride pour 175 000 euros. Porsche a longtemps hésité à sauter le pas. Hors de question de perdre l'ADN de son modèle phare basé sur la performance et la vitesse, des qualités difficilement compatibles avec une batterie électrique qui, par définition, alourdit le véhicule. La batterie de la 911 hybride est la plus petite possible avec une capacité de seulement 2 kWh. Elle ne sert en réalité qu'à démarrer la voiture. La 911 hybride ne met que 3 secondes pour aller de 0 à 100 km/h, c'est 3 dixièmes de seconde plus rapide que la 911 thermique, insiste Porsche, qui a fait s'affronter les deux modèles sur un circuit automobile pour le démontrer. La marque n'envisage pas pour le moment de décliner sa voiture iconique en version 100% électrique. Aujourd'hui, la technologie ne permet pas d'avoir une i911, explique un responsable de la marque. Si Porsche a déjà électrifié 2 de ses modèles, la Taycan et la Macan, elle n'a jamais caché ses réticences à un avenir tout électrique et milite contre l'interdiction du thermique en 2035 en Europe.
Voilà, Porsche qui dégaine donc la première version hybride de sa fameuse 911. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés tout de suite, retrouver Aude Kersulec depuis Euronext à La Défense. Bonsoir Aude, comment ça s'est passé ce mardi à la Bourse de Paris?
Bonsoir. Ben, on enregistre une baisse de quasiment 1%, donc pas très bien. On reste sur cette séquence d'ailleurs un petit peu molle sur les marchés européens. Alors hier, on était monté dans un volume d'affaires d'ailleurs très très faible. On s'était cru au 15 août, hein, moins de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus. On est à 2 milliards et demi, mais on peut pas dire qu'il y ait de vraies initiatives sur les marchés. Donc du rouge aujourd'hui sur les marchés européens. On attend 2 rendez-vous en fait cette semaine et qui vont arriver vendredi. Ce sera l'inflation européenne le matin et l'inflation américaine l'après-midi avec l'indicateur PCE. Sinon, quelques valeurs qui se sont démarquées aujourd'hui sur le marché parisien. Renault tient en tête de l'indice, plus 2,6%. La valeur est au plus haut depuis 2019 à 51,70 €. Michelin, qui a tenu une journée investisseur et qui a rassuré sur ses prévisions, qui prend 1,3%. Et Saint-Gobain qui a qui a franchi un plus haut aujourd'hui, qui a franchi les 82 euros, même si on finit en baisse pour Saint-Gobain. Et Aramis, on est très voiture aujourd'hui, plus 10% après un relèvement d'objectifs donc pour l'année 2024. Des indices rouges en Europe, c'est un petit peu mieux du côté des États-Unis. On sort de week-end pour Wall Street. Le Dow Jones, en revanche, est en baisse, mais le Nasdaq est lui en hausse, plus 0,5% au-dessus des 17 000 points. Et la valeur qui fait encore parler d'elle, c'est Nvidia. Nvidia qui prend quasiment 6% aujourd'hui, 1129 $. La semaine dernière, on n'était même pas à 1000 $.
Merci beaucoup, Aude Kersulec, depuis Euronext à la Défense. Bah oui, on va regarder effectivement ce qui se passe du côté de Wall Street. Le Dow Jones qui perd 0,43%, 38 900 points. Et puis l'indice Nasdaq, effectivement, qui fanfaronne un petit peu en ce moment, plus 0,5%, 17 012 points. Tout ça à la mi-séance, 18h09. Alain Taravella, le président fondateur du groupe Altarea, est donc l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite.
BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler d'immobilier. Est-ce que c'est la fin de la crise de l'immobilier? Est-ce que l'immobilier ne doit pas s'adapter finalement à ses clients? En tous les cas, c'est ce qu'a choisi de faire Alain Taravella, qui est notre invité. Bonsoir Alain Taravella.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes président fondateur du groupe Altarea, c'est le deuxième promoteur immobilier. On connaît plus qu'Altarea, on connaît Cogedim et puis Woodium, maintenant que vous avez racheté. Et vous avez lancé en fin de semaine dernière une nouvelle offre pour permettre aux primo-accédants, enfin à la limite à ceux qui n'ont pas les moyens, de devenir propriétaires de le bien. On va y revenir. Mais avant, j'avais une question, juste un mot sur Altarea. Deuxième promoteur, c'est combien de logements? Quelques chiffres clés?
Oui, quelques chiffres clés sur Altarea. On est effectivement deuxième promoteur de logements. On a fait l'année dernière 8000 logements, après en avoir fait 13000 il y a 4 ans. Donc, c'est, vous voyez la profondeur de la crise. Nous sommes également, nous faisons des bureaux, pas trop en ce moment. Nous sommes surtout propriétaires de commerce. Nous sommes une foncière de centres commerciaux qui assoit le groupe. Et puis, on développe beaucoup de nouveaux métiers, on développe les ENR, le photovoltaïque, on développe les data centers, on développe la logistique. Moi, j'ai un groupe diversifié, j'aime bien me qualifier d'entrepreneur de ville et donc de faire l'ensemble des métiers qui concourent à la création de la ville.
Oui, ça, vous êtes un entrepreneur, on vous a suivi sur BFM Business. Puis vous me disiez en souriant, pour montrer la profondeur de la crise, avant j'étais milliardaire dans le classement de Challenge, maintenant je ne suis plus que millionnaire. Je ne vous demande pas combien, ce n'est pas tellement l'objet, mais en tous les cas, c'est dire quand même qu'il y a une vraie crise immobilière. Est-ce que vous diriez qu'on est vers la fin de cette crise immobilière, ou alors sinon, à quand la sortie de crise?
Je dirais qu'on est dans la crise.
Vous savez, quand on est encore.
On est dans la crise. Oui. Vous savez, à partir du moment où on voit le bout du tunnel, on n'est plus en crise. Moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas le bout du tunnel. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une crise très forte, très profonde. C'est une polycrise. C'est lié à beaucoup de choses. Fondamentalement, c'est lié au fait que pendant 10 ans, 12 ans, les taux d'intérêt ont été à zéro ou quasiment, que cela a permis de faire beaucoup d'opérations. Les valeurs ont monté de façon peut-être excessive, mais ce n'était pas très grave, puisque de l'autre côté, les taux d'intérêt étaient faibles et que les clients pouvaient payer. Aujourd'hui, d'un seul coup, début 22, il y a eu une hausse des taux d'intérêt qui sont passés de 1 à 4%. Il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait monter les prix de construction de 15%. Voilà, d'un seul coup, patatras, t'en vas la cruche à l'eau qu'elle se casse.
Oui, mais là, on est quand même en 2024, 2 ans après ce que vous décrivez. Les taux d'intérêt, on l'a vu, les banques l'ont dit, sont un peu en train de baisser. Est-ce que vous ne voyez pas la sortie du tunnel?
Je ne vois pas aujourd'hui la sortie du tunnel parce que tout n'est pas encore réglé. Si je savais exactement ce qui allait se passer demain, je serais...
Milliardaire, ça y est, vous l'avez déjà été.
Non, oui. J'allais le dire, mais je vais...
si.
Je vais le dire. la dernière grande crise de l'immobilier, vous savez, j'ai une certaine expérience dans l'immobilier, ça fait très longtemps que j'en fais, c'est en 1989. Ça a duré, suivant la façon dont on compte, 5 à 10 ans. 5 à 10 ans pour que le marché s'adapte. Alors, je pense que ça fera moins de temps. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la crise. On y est pour 24, on y est pour 25. J'espère qu'en 26, je prévois, moi, dans l'organisation de mon groupe, que ça va repartir en 26. Voilà.
D'accord, oui. Vous n'avez pas fait de plan social à l'instar de Nexity.
Non, je n'en ai pas fait.
Parce concurrent que... et néanmoins forcément camarade, qui est le premier promoteur immobilier.
Oui, je n'en ai pas fait parce que, comme je vous l'ai expliqué, nous avons beaucoup d'activités. Nous avons organisé la mobilité à l'intérieur de l'entreprise et nous faisons face sans plan social.
Je ne sais pas si vous avez vu, c'est tout à l'heure, il y a un communiqué de la Fédération bancaire française qui dit qu'elle est méfiante, voire contre, la portabilité des prêts immobiliers, qui est une des propositions qui va être faite dans le cadre d'un projet de loi. Le président de la FNAIM a dit que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que pour vous, c'est une des pistes de sortie de crise, parce qu'évidemment, c'est ce qui peut permettre à certains qui ont emprunté à des taux bas de pouvoir racheter, y compris aujourd'hui, quoi.
C'est normal que la fédération bancaire soit contre. Chacun est dans son rôle. Donc moi, dans mon rôle, je dis que tout ce qui peut contribuer à améliorer le sort de ceux des clients, des Français qui veulent changer d'appartement. Effectivement, des Français qui ont acheté un appartement il y a 7 ou 10 ans, qui maintenant la famille s'est accrue d'un ou deux enfants, ont besoin de changer et ont et le fait d'avoir un crédit qui est aux alentours de 1,5 et 6. S'ils s'en vont, s'ils revendent leur appartement et qu'ils en rachètent un autre, ils réempruntent à 4. Oui. Donc, ça les bloque et ça bloque le marché. Donc, oui, la portabilité est une des solutions. Ce n'est pas la seule, c'est une solution qui est très bonne pour tous ceux qui sont déjà propriétaires et qui ont envie de changer, notamment pour s'agrandir compte tenu des besoins de leur famille.
Oui, on verra la solution que vous proposez pour les primo-accédants. Vous dites souvent, et vous l'avez dit encore tout à l'heure, là, le marché du logement est en polycrise. D'abord, aujourd'hui, il y a combien de biens immobiliers, logements, bureaux, qui sont sur le marché? Est-ce qu'il y en a ou pas?
Dans le logement, d'abord, il faut faire la distinction entre l'ancien et le neuf.
Oui.
Bon, ce qui est, pour vous donner quand même des proportions, grosso modo, l'ancien, c'est 800 000 à 1 million de ventes par an de logements dans l'ancien. Et dans l'immobilier neuf, c'était 150 000 et c'est redescendu aux alentours de 80-90 000. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement une offre chez les promoteurs de logements neufs. Pas tant que ça, parce que les promoteurs ont fait ce qu'il fallait pour vendre. Ils ont adapté leur prix. En clair, ils ont baissé leur prix.
Vous les avez bradés, quoi?
Non, on n'a pas bradé. On s'est adapté aux clients. Mais le sujet, c'est comme ça coûte trop cher de construire, ce que ne font pas les promoteurs, c'est lancer de nouvelles opérations.
Ouais.
Donc, ce que je dis, c'est pas qu'on va avoir des stocks. C'est pas qu'il va y avoir des promoteurs qui vont faire faillite. Il va y avoir une baisse de la production. Il n'est plus possible aujourd'hui de construire et de trouver un client et de gagner un tout petit peu d'argent. Donc, il y a une réduction de l'offre et qui va réduire la production en France.
Parce que justement, cette production, il manque combien de logements, vous trouvez, vous pensez, vous estimez?
Je dirais que quand on voit, il y a plein de gens qui parlent, c'est 350, 400 000, 450 000. Mmh. Il y a 5 ans, on construisait 350 000 logements en France. Je dis toutes catégories confondues, neuf, maisons, logements sociaux, etc. On va être à la moitié. On va être à la moitié.
En 2024, vous voyez à peu près...
Oui, 225 000. Donc, vous voyez la catastrophe économique. Il y a toute la chaîne qui est impactée. Bon, il y a des promoteurs, il y a des entreprises, il y a même les notaires, les agents immobiliers.
Et même la France, puisque la baisse des frais de mutation est une des explications de l'augmentation surprise, on a envie de dire, du déficit de la France.
Absolument, puisque l'immobilier, contrairement à ce qui se dit, rapporte de l'argent au budget de l'État. Et le fait d'arrêter de construire ou de ralentir la construction fait moins de recettes pour l'État.
Tiens, une question, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Alain Tarabella, en disant que vous êtes finalement sans doute le meilleur, car le plus vieil expert de l'immobilier, donc de la crise immobilière. Comment vous expliquez qu'il y a eu, je ne sais pas trop combien de ministres du logement qui se sont succédés, il n'y a aucune politique du logement qui ait marché? Pourquoi?
Oui, d'abord, vous avez raison, j'ai une petite expérience, puisque ça fait 55 ans que je suis dans le métier.
Ouais.
Donc, j'ai commencé...
Et donc, vous avez connu à peu près 50 ministres du logement.
Je ne les ai pas comptés. Le problème, ce n'est pas tel ou tel ministre. Le ministre actuel, il fait partie des bons, puisqu'il s'occupe quand même des problèmes. La question, c'est qu'il y a un ministre tous les 6 mois, tous les ans.
Ben voilà.
Il n'y a pas de politique. Le logement, c'est quand même assez facile à comprendre. Entre le moment où on achète un terrain et le moment où on livre, il se passe 3-4 ans. Il faut avoir des permis, il faut se développer, il faut avoir une politique de long terme. Si aujourd'hui, le ministre, le gouvernement, prend une décision, les effets seront dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, il faut que les politiques puissent considérer que le logement est un bien essentiel, c'est un bien essentiel, et que ça soit programmé sur le long terme. On programme sur le long terme des centrales nucléaires, on programme sur le long terme des routes, programmons sur le long terme des logements et faisons en sorte que la politique suive.
Oui, le problème souvent c'est que l'immobilier va lorsqu'il y a une fiscalité pour le soutenir qui est assez forte et qu'en ce moment il y a l'État n'a plus d'argent, donc c'est une des difficultés. Juste avant d'aborder la question de votre nouvelle offre, parce que vous dites qu'il faut inventer un nouveau logement. C'est ça que je trouvais très intéressant. Pourquoi il faut inventer un nouveau logement? C'est qu'en fait, la sociologie, la démographie française a beaucoup changé, a beaucoup évolué en quelques années.
En fait, moi je dis, vous parlez d'immobilier, on parle de crise de l'immobilier, vous parlez de crise du logement. Il faut partir de ce que veulent les Français. Les Français, ils veulent un logement qui soit adapté à leurs besoins. Aujourd'hui, les Français, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est... D'abord, il y a beaucoup moins d'enfants, comme on le sait. La natalité française a baissé. Savez-vous qu'en 40 ans, le nombre de personnes dans une unité d'habitation, dans un logement, est passé de 3,6 à 2,1. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui...
Il y a deux personnes en moins, quoi.
Ce qui nous est demandé, c'est des appartements... pour personne seule, qu'elle soit très jeune ou qu'elle soit âgée. Et ce qui nous est demandé, c'est des logements pour des jeunes couples qui ont envie de devenir propriétaires, qui ont 25 ou 30 ans, qui n'ont pas les moyens d'acheter un grand appartement, on va y revenir, mais qui ont besoin d'un logement adapté à leurs moyens. Et le sujet, c'est que je pense que notre devoir à tous, pas le mien, le devoir de tous ceux qui concourent au logement, c'est de se dire comment on fait pour loger les jeunes, notamment, qui rentrent sur le marché du travail, qui ont du mal à trouver un appartement en location parce qu'il y a un blocage. Et donc, c'est ça la démarche, c'est s'adapter. Aujourd'hui, nous avons une population avec des personnes seules, des couples qui divorcent. Donc, au lieu d'avoir un grand logement, il en faut deux petits.
Ouais, et donc vous construisez les T1 et les T2. Juste en 2018, il y avait seulement 10% qui vivaient seuls. Et en 2050, ça sera 30% de la population. Enfin, c'est une mutation assez stupéfiante.
Oui, c'est complètement. Alors il y a les personnes seules, il y a aussi quand même, il faut, heureusement, beaucoup de personnes qui vivent à deux. Mais c'est vrai que les familles
monoparentales
deviennent importantes. Et les familles avec 2, 3, 4 enfants deviennent rares. Mais ouais. Et en fait, notre offre aujourd'hui, celle qui est préconisée par tout le monde, qui est notamment dans les principes d'aménagement des communes, il y a trop de grands appartements et pas assez de petits adaptés à cette sociologie.
Alors justement, donc, votre solution, Alain Tarabella, c'est de lancer une nouvelle offre de logements neufs. Et notamment, c'est une offre que vous appelez Access, et qui est de faire des logements donc plus petits, qui permettent aux primo-accédants d'acheter un appartement Il y a des accords avec les banques, il n'y a pas de frais de notaire, il n'y a pas frais de dossier bancaire, il n'y a pas de frais aussi intercalaires. Bref, la note est beaucoup moins salée. Comment est-ce que vous faites ? Expliquez-nous.
Alors, d'abord, le principe, c'est effectivement de partir du besoin du français, du client. Voilà. Et moi, mon raisonnement a été de dire, ce que je veux, c'est qu'un primo-accédant qui n'a pas d'argent puisse acheter un appartement pour le prix d'un loyer. C'est ça le thème volonté. Donc, je suis parti. Un couple qui gagne 3000 euros, il peut payer 1000 euros de mensualité. Avec 1000 euros de mensualité, combien on peut avoir de mètres carrés ? Alors, il y a quand même une chose très importante qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour les primo-accédants, il y a un système qui s'appelle le prêt à taux zéro. Il y a les banques qui, en plus, aident les primo-accédants. Et donc, aujourd'hui, mais c'est pas une offre Altarea, c'est courant, vous pouvez acheter avec un taux d'intérêt moyen qui est de l'ordre de 1,50%. 1,50%. Donc, ce que je dis, c'est que vous êtes primo-accédant, vous avez aujourd'hui les meilleures conditions de financement possibles que vous n'aurez jamais plus. Parce que quand les taux baisseront, le PTZ risque d'être un tout petit peu réduit également par l'État. Donc aujourd'hui, on peut emprunter à 1,50, ce qui est quand même assez formidable. Et donc, ce que je dis, c'est 1000 euros. On peut grosso modo s'acheter un appartement pour 250 000 euros. Il faut que le propriétaire potentiel n'ait rien à payer, pas d'apport. Donc le principe, c'est qu'il paye 500 euros au départ et il paiera 1000 euros quand il rentrera dans les lieux. Rien entre les deux. Donc tout ça, ça a un certain coût. C'est pris en charge par nous. Et à partir de ça, on fait le décompte à l'envers. On rediscute le terrain. On rediscute les coûts de construction. On rediscute notre marge, pour être clair, nos frais de fonctionnement. Et puis, on fait aussi des appartements qui sont peut-être plus compacts, mais qui sont parfaitement... qui marchent très très bien. Donc, on fait quelque chose qui peut être adapté. On a commencé sur une opération
à
Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, où les gens... On a fait une réunion avec... on a commencé par les gens qui habitent à Villeneuve. Et ils disent, mais comment c'est possible ? Oui, c'est possible. C'est possible à condition que tout le monde fasse un effort. Mais l'effort, il doit être fait par nous, il doit être fait par les collectivités.
Et voilà, par les collectivités sur le prix du foncier.
Ouais, sur le prix du foncier et sur le fait que, notamment, alors que la sociologie française n'est pas celle-là, qu'on ne nous impose pas un tiers, parce que grosso modo, il y a beaucoup de maires qui réclament un tiers de grands logements.
Ouais.
On ne sait pas. Il n'y a personne pour aller là-dedans. Je ne dis pas... Si, il y a un peu de monde. Mais ce qu'il faut, c'est faire des logements parfaitement adaptés, à des tailles raisonnables, pour les primo-accédants, qui sont en général des jeunes couples ou des jeunes couples avec enfants.
Et là, donc par exemple, dans le projet là, 640 logements que vous avez lancé, ouais. Ça y est, il y a combien de petits appartements ou de grands appartements, si on prend le problème dans l'autre sens ?
Il y a grosso modo... 15% de 4 et 5 pièces, il y a 70% de 2 et 3 pièces, et puis il y a 15% de studio. Donc ce qui est réclamé par les clients, mais par les Français, par ceux qui veulent se loger, je dirais par les jeunes, c'est soit des 2 pièces quand on n'a pas encore d'enfants, soit un 3 pièces, alors plus ou moins grand, on s'adapte. Mais ce qu'il faut, c'est que l'immobilier... jusqu'à présent, le logement, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut laisser les Français choisir leur mode d'habitat. Il y en a qui préfèrent habiter dans un appartement plus petit et pouvoir acheter une voiture plus importante ou plus grand et faire un certain nombre de sacrifices sur d'autres choses. Ce qu'il faut, c'est que ce qu'on offre aux Français soit adapté à leur situation.
Et ça, ce que vous faites à Villeneuve-la-Garenne, vous allez multiplier dans d'autres villes, autres oui. qu'en Ile-de-France. Vous avez envisagé quoi, 5000...
Pas tant que ça. En fait, Villeneuve-la-Garenne, en un mois, on en a vendu 100. Oui. Notre objectif, c'est sur la région parisienne, enfin sur l'ensemble de la France, d'en vendre 1500, pas simplement à Villeneuve-la-Garenne.
Oui.
Et l'année prochaine, ça représentera 50% de notre production. Je pense que c'est une des solutions, mais je pense que tout le monde, tous les élus, les gouvernants devraient être sensibles au fait de favoriser la primo-accession.
Juste en 3 secondes, la crise du logement social, là, des HLM, comment est-ce qu'il fallait la résoudre? On vous dirait à l'intervalle là, il faut la résoudre, ça serait quoi en un mot, en une phrase?
Bah, laisser relancer la production libre, puisque la production libre finance beaucoup le logement social.
Voilà, comme ça, vous la bouclez. Merci d'être venu ici dans le studio BFM Business. Grande interview avec Alain Tarabella, donc le patron de Alta Area, qui se lance dans une nouvelle forme de logement neuf. Merci beaucoup.
BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, on est reparti jusqu'à 20h sur BFM Business. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. Et puis nos experts qui sont là. Stéphanie Villers est avec nous. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Bienvenue, économiste conseillère de PwC France. Et puis Edwige Chevrillon, bien sûr. Bonsoir Edwige.
Un plateau d'expertes.
Absolument, un plateau d'expertes. Tout à fait. Disons un mot quand même de ce que nous a dit Alain Tarabella, alors. Grande figure du secteur de l'immobilier, un président fondateur du groupe Alterea. Évidemment, la question, c'était où est-ce que vous nous voyez dans cette crise du logement ? Et il ne voit pas le bout, lui, pour l'instant.
Alors, moi, c'est un peu étonnant, parce que quand on a déjà reçu des promoteurs immobiliers, qui, c'est quand même, on voit la sortie de crise, on voit la lueur là, au fond du tunnel. Lui, il ne voit rien du tout. Donc, quand même, c'est un peu inquiétant, parce qu'effectivement, c'est là que j'ai dit, c'est Woodeum, il est quand même au cœur de l'immobilier, et puis c'est un grand expert. Le fait qu'il dise ça, je trouve que ce n'est pas très rassurant.
Oui.
Donc, j'étais un peu surprise, parce que surtout que la baisse des taux, elle est en train d'arriver. Elle arrive déjà, on le voit bien dans les taux des banques. Donc, quelque part, je trouve que c'est faire preuve de pessimisme, même si lui, à la différence de Nexity, il n'a pas supprimé...
Il n'y a pas de plan social.
Alors, preuve de pessimisme ou de réalisme? Parce que c'est vrai que... Alors, le logement, évidemment, on le rappelle, c'est le premier poste de dépense des Français et des Françaises. C'est quand même le plus préoccupant en ce moment, avec en plus, en face de cette crise, un espèce de plan de débranchement des aides publiques, plus que de soutien. Enfin, ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de faire pour une filière ou pour un secteur en difficulté, non, Stéphanie?
Alors, pour moi, la crise de l'immobilier a été déclenché par le changement de paradigme avec la hausse des taux d'intérêt.
Voilà,
donc on voit quand même qu'il y a une petite amélioration du côté du financement des prêts immobiliers. Donc en fait, moi j'ai l'impression quand même que on a le pire est derrière nous et que petit à petit on va pouvoir relancer ce secteur-là. D'autant que il y a toujours une demande, en fait.
Oui.
Cette demande va
Oui, non, mais la demande, elle est là, mais quid de l'offre? Parce que on n'a pas de foncier, oui. On a des coûts des matières premières qui restent quand même très élevés.
Il y a eu pendant des années une dynamique de l'immobilier avec des prix qui ont explosé. Et en fait, moi, c'est pas étonnant qu'avec la hausse des taux d'intérêt qui n'était jamais arrivée depuis une décennie, que le premier secteur qui impacté par cette hausse des taux d'intérêt, il n'y avait pas de doute à avoir, c'est le secteur de la construction. Il fallait de toute manière, pourquoi on voulait augmenter les taux d'intérêt? C'était pour limiter l'inflation. Et l'inflation, quelque part, elle était bel et bien dans le secteur immobilier. Donc la bulle, en fait, c'est on va dire un tantinet dégonflé à travers la hausse des taux d'intérêt. Ça a même été plus dramatique que ça, parce que finalement, ça a braqué le marché. Il y a une vraie crise, en réalité. Pour autant, comme nous dit Bruno Le Maire, même au niveau de l'inflation, en fait, on a réussi à combattre cette inflation qui nous laisse espérer à des baisses des taux d'intérêt. Ouais.
Lui, voit la reprise en 2026, si peut-être, il dit Alain Tarabella, peut-être.
Oui, il la voit quand même en 2026, ouais. Mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie bulle, il y a quand même beaucoup d'argent qui s'est créé dans l'immobilier pour tout le monde, et donc la bulle a éclaté, et finalement, les pouvoirs publics, comme le gouverneur de la Banque de France, n'étaient pas si mécontents de voir éclater cette bulle immobilière. Alors, c'est vrai que ça a coûté très cher, notamment parce qu'il y a beaucoup d'agences qui ont fermé, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur patrimoine diminuer.
Et les promoteurs sont faits à racler.
Oui, mais il y en avait beaucoup, il y en avait sans doute un peu trop, donc ça a un peu rationalisé, on va dire, le marché. À partir de là, c'est là où Alain Tarabella, je trouve ça intéressant, lorsqu'il parle d'une polycrise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la question des taux d'intérêt, il y a eu l'Ukraine avec les conséquences énergétiques, et puis il y a aussi toutes les normes de construction qui ont été multipliées immobiliers, je ne sais plus, par 6 et par 10, enfin, oui, en tous les cas, d'une manière gigantesque, qui ont provoqué une inflation considérable de la construction de ces appartements.
Les chiffres dans le neuf sont aberrants. Il disait les bonnes années, il y a quelques années, on construisait 450 000. Du temps de François Hollande, notamment, il y avait un chiffre qui circulait, 500 000 nouveaux logements. Et là, on va être à 225 000, 250 000 cette année.
Parce que le nombre d'autorisations, justement, de logements neufs s'effondre.
Oui, mais alors là, c'est la deuxième partie de son raisonnement que moi je trouve intéressant. Je n'avais pas forcément mesuré. Lorsqu'il dit en 2018, il y avait à peu près 10% des Français qui vivaient seuls ou avec un ou avec deux personnes. Mmh. Et en 2050, ça sera 30%, quasiment un tiers.
Incroyable.
Pourquoi ? Parce que la population vieillit. Il y a de moins en moins de bébés. Donc il y a un problème aussi démographique. Et puis des familles monoparentales. Donc en fait, il dit, en fait, on se trompe complètement de la manière dont on regarde la crise. Mmh. En fait, il faut partir du client et construire en fonction du client. Donc là, il dit, il faut des appartements qui soient plutôt des T1 et des T2 que des grands appartements, parce qu'il y a beaucoup, de moins en moins de clients pour les grands
appartements. Oui, c'est ça, exactement. Mais donc, on a besoin de moins de surface, mais de plus de volume par rapport à cet éclatement de la cellule familiale.
Oui, enfin, on a besoin de plus petits appartements. En revanche, on veut des salles ou des pièces, si vous préférez, polyvalentes, qui fassent cuisine, salle à manger, salle de travail, avec le télétravail aussi, qui a changé les comportements. On veut un petit balcon. On veut une coulée verte. Donc voilà, tout change énormément dans la manière de construire des bâtiments.
D'où l'offre qu'il lance pour les primo-accédants, en expliquant à des jeunes couples, un jeune couple qui gagne 3000 euros, qu'à raison de 1000 euros, ce qu'on paierait en loyer notamment, on peut devenir propriétaire avec le soutien du PTZ
C'est son objectif.
C'est son objectif.
Il vient sur le PTZ, il dit, c'est le moment où il faut acheter, parce que là, c'est les taux les plus bas, bizarrement. Il dit, avec l'aide du PTZ et des banques, donc ça sera, vous êtes à 1,5%. C'est vraiment le moment d'acheter.
Bon.
Stéphanie Villers,
il y a toujours des soutiens
pour dynamiser
le
marché.
Vous qui connaissez bien le monde de l'entreprise, quand vous dites que le plus dur est derrière nous et qu'on a passé cette bosse finalement de la crise immobilière, on a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent sur ce plateau nous dire tous les jours que par rapport à leur politique de recrutement et à la pénurie de main-d'œuvre, ils sont en train de créer des parcs de logements parce que le logement est le premier frein finalement au recrutement. Mais donc elles ont tort, ces entreprises, de se lancer dans ces coups-là ?
Alors,
pour ces investissements-là,
il faut déjà avoir les moyens. Je ne pense pas que toutes les entreprises aient les moyens
principalement.
S'enchevêtrer pas mal de défis, notamment avec la réindustrialisation, où il faut développer certains pôles dans certaines régions, où là, on voit bien que c'est un problème à la fois de compétences et un problème de logement. Mais à partir du moment où il y a un besoin, la demande va être là, et c'est lorsque en fait, on n'a pas de perspective. On se dit, il n'y a aucune raison de construire. Or là, on voit bien dans certaines régions, là où il faut réindustrialiser, là où il y a des pôles de compétences, là, il va falloir relancer la construction. Donc ça, ce n'est pas forcément totalement négatif.
Ça se voit dans les Hauts-de-France, vous avez raison. Dans les Hauts-de-France, là, avec toutes les gigafactories qui sont en train de se construire, il y a vraiment une crise il y a une pénurie de logements. Et là, il faut construire vite. Et là, pour le coup, on a un problème de foncier parce que il n'est pas suffisamment libéré. Mais ce n'est pas partout. C'est vrai que c'est dans des zones où il y a cette réindustrialisation.
Voilà donc pour Alain Taravella, président fondateur du groupe Altarea, qui était avec nous. Sinon, on va revenir à nos petites histoires de politicienne. On va écouter Thomas Cazeneuve, le ministre du Budget, qui a été passé sur le grill aujourd'hui à l'Assemblée par les députés LR. Vous savez que la fameuse commission des LR sur la... Avec Philippe Juvin, le creusement de la dette. Voilà, c'est arrivé à l'Assemblée. Première audition de Thomas Cazeneuve, qui a défendu son bilan, comme il a pu écouter le ministre des Comptes Publics tout à l'heure.
Qui, effectivement, aurait pu anticiper qu'en fin d'année, en toute fin d'année, notamment sur le rendement de l'IS, nous aurions un tel effet du ralentissement économique. On est les premiers également, comme vous, à regretter une vingtaine de milliards d'euros de recettes en moins. Donc, on a lancé un travail spécifique sur la manière dont on réalise et dont sont réalisées les estimations, dont les directions travaillent, s'alimentent les unes les autres, pour pouvoir parfaire nos modèles, pour faire mieux.
Faut faire mieux.
Oui, alors juste, attendez.
On va pas refaire le modèle, je veux dire, non, merci, mais, réveille-toi.
Oui, non mais c'est ça, mais je pose cette question. On a une Cour des comptes, on a au Conseil des finances publiques. Qu'est-ce que cette commission apporte de plus? Parce que passer de commission en commission et de rapport en rapport, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'analyser, d'écrire, de théoriser, et plutôt décider et avancer? Enfin, qu'est-ce que cette commission apporte de plus au débat?
Déjà, l'aveu de Thomas Cazeneuve, hein, je trouve que c'est intéressant.
Oui, ce c'est quand même rendre des comptes devant...
C'est nous, c'est la démocratie.
Oui, ah ouais, je pense que c'est pas un mal lorsqu'il y a eu une telle disproportion, une telle erreur dans le calcul. Hein,
alors vous me dites qu'on en avait besoin.
Oui, moi je pense
pour comprendre.
Je dis pas qu'il faut que des commissions, mais en tout cas il faut se rendre comptable en fait des mesures qui ont été faites et qui n'ont pas fonctionné, puisque en tout cas ou des évaluations et des prévisions qui ont été faites et qui ont été fausses in fine. En fait, quand il dit que il n'arrive pas à comprendre que l'IS ait été si faible en fin d'année, en fait, on sait très bien que de toute manière l'impôt est quand même corrélé à l'activité, même s'il y a un effet multiplicateur. Enfin, on peut pas non plus totalement vérifier. C'est pas aussi évident comme lien, mais le lien existe. Avoir faire une telle marge d'erreur, c'est ça qui questionne. On peut effectivement, on peut pas tomber dans le mille à chaque fois. C'est un peu compliqué la formule, on va dire. Mais avoir une telle marge d'erreur, ce n'est pas possible d'expliquer uniquement en disant on va revoir notre modèle.
Là, on est sur l'affichage des 1000 milliards d'euros de dette en plus. Enfin, encore qu'on n'est pas tout à fait à 1000 milliards depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé aux affaires.
Vous avez quand même vu
En 2017, c'est de la politique politicienne. Ça permet aux républicains de se faire mousser un petit peu là en vue des prochains mois. Budgétaire de l'automne prochain.
Je trouve que c'est assez normal que la ministre du budget rende des comptes devant l'Assemblée nationale, puisque finalement, c'est des députés qui ont été élus par nous. Donc, je veux dire, je pense que c'est plutôt bien. Là, on n'est pas dans la politique politicienne. Non, je trouve que c'est important quand même qu'un ministre du budget vienne nous expliquer pourquoi on a un tel trou dans les finances publiques. Je trouve que son explication, je la trouve un peu, même si elle est sans doute vraie, elle est un peu légère. De dire, ben voilà, faut qu'on améliore nos paramètres et nos modèles. Je trouve que c'est un peu étonnant.
D'autant que la Cour des comptes, déjà, dès le mois d'octobre,
a commencé à tirer la sonnette d'alarme.
Récupérer le modèle de la Cour des comptes, parce qu'apparemment, celui-là est plus efficace.
Ouais. Oui, c'est clair. Et je vous rappelle aussi que Bercy publie chaque mois un état des lieux sur ses dépenses et sur ses recettes. Et on savait, en effet, en septembre-octobre dernier, que le budget 2024 devrait être complètement revu. Mais en fait, cette commission, ce qu'elle questionne, c'est l'insincérité du budget.
Oui, mais parce que lorsqu'il dit aussi la deuxième partie de la phrase de Thomas Cazeneuve, lorsqu'il dit on a mal anticipé la baisse de l'impôt sur les sociétés d'IS, je veux dire, voilà, il fallait nous écouter.
C'est ce qu'on entendait dire de la fin d'année.
On voit bien que les chefs d'entreprise vous disent ça devient plus compliqué, ça ira mieux en 2024, mais sur 2023, quand même, ils étaient beaucoup plus circonspects.
Oui, on a sous-estimé au point de faire une telle erreur dans les prévisions.
Sur l'impact de la crise immobilière.
Et sur l'impact de la crise immobilière, évidemment, pour arriver.
C'est très cher.
Qu'est-ce qui a bien pu se dérégler finalement? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui encore, Stéphanie. Pour qu'il y ait une telle erreur d'appréciation, pour qu'on nous en donne dans la foulée des plans d'économie à 10-20 milliards.
On peut regarder quand même ce qui a été fait au niveau des dépenses. L'indexation des retraites sur l'inflation, ça a coûté 18 milliards en plus.
Oui.
Quand on sait qu'en fait, c'est 18 milliards en plus, qui a été réalisé.
La taxe d'habitation, dans les... 17 milliards.
Voilà.
On a tous oublié qu'on ne paye pas de taxe d'habitation parce que maintenant la taxe foncière, tu vois, pour les propriétaires, elle est devenue tellement élevée qu'il y a un rattrapage.
C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, ça a été compensé pas totalement, soi-disant, par l'État. Donc en fait, l'État, ça a grevé en fait les comptes de l'État parce que au départ, c'était bien le particulier qui payait cette taxe d'habitation. Aujourd'hui, c'est donc l'État qui n'a pas d'argent, donc c'est de la dette. Donc bien sûr, ça vient créer du déficit public. Vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est pas mis en avant. Pour autant, c'est une réalité. Le manque à gagner depuis 2017 avec la taxe d'habitation, c'est 40 milliards.
Alors, à la décharge quand même de Bercy, il faut voir que chaque sortie du président de la République, d'Emmanuel Macron, c'est une sortie à 1 milliard, voire à 2 milliards. Donc, et que là, pour le coup, Bruno Le Maire ne pouvait pas faire grand-chose. Parce que c'est le président qui sortait, qui disait, tiens là... Mais souvent, à juste titre. Vous allez voir les hôpitaux, il y a besoin d'argent. Enfin, où vous sortez en France,
alors d'accord. Mais bon, des, quelques sorties à 1 ou 2 milliards, ça ne nous fait pas arriver aux 20 milliards dont on a besoin. Après, le sujet, c'est que là, en effet, on rabote parce qu'on cherche à faire des économies, en urgence totale. On rabote sur la dépense sociale parce qu'on sait que c'est ce qui pèse le plus lourd. Mais où est l'analyse de la dépense publique?
Oui. Bah, en fait, c'est l'efficacité de la dépense publique. Parce qu'effectivement, la taxe d'habitation, c'était la supprimer pour donner du pouvoir d'achat. Or, on a vu qu'en fait, le taux d'épargne est en train de grimper.
Ouais,
et donc, les ménages ont préféré en fait, mettre cet argent de côté plutôt que le dépenser. Donc ça a coûté très cher à la croissance et par effet ricochet à la recette de l'État hein, à travers le manque des dépenses. Donc là, en fait, il faudrait faire un constat de réalité en disant en fait, cette mesure-là, la suppression de la taxe d'habitation, on a assez de recul parce que c'est depuis 2017, n'a pas fonctionné. Au contraire, ça a coûté cher à l'État et
c'est
la parole
de la on revient dessus.
Bah non, maintenant c'est trop.
Alors, je pense que politiquement,
difficile.
Impossible. Qui se lancerait là-dedans, effectivement, revenir en arrière.
Mais c'était une mesure politique, du reste, pour contrebalancer la suppression de l'ISF. C'était pour ça que donc on supprime
la redevance.
Il n'empêche qu'on voit bien avec le recul, parce que en fait on a le pendant au niveau des entreprises. Les entreprises aussi ont vu en fait leurs taxes, leurs impôts fonciers baisser à peu près de 23 milliards, un peu moins que le. Il n'empêche que l'investissement des entreprises a toujours été maintenu. Mmh. Donc là on voit que ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné d'un côté, mais ça a fonctionné du côté des entreprises.
Et oui, et puis on va voir si Thomas Cazenave prononce sur les pistes qui sont proposées par le FMI, qui nous dit, il faut tailler dans les niches fiscales, il faut raboter les
niches
aides
fiscales de l'immobilier, par exemple.
Immobilier, ouais. Et aussi dans les effectifs de la fonction publique. Le FMI a fait des propositions très claires.
Tout ça nous promet, en tout cas.
Loin d'être mise en œuvre.
Là, en tout cas, vous sentez que cette commission, c'est quand même un tour de chauffe pour les Républicains en vue de la prochaine bataille budgétaire de l'automne prochain qui s'annonce quand même assez tendue avec quelques 20 milliards d'euros à trouver d'économies pour l'an prochain. Qui ne sont pas documentés, effectivement, comme nous l'a rappelé le FMI il y a très peu de temps. Voilà pour Thomas Cazenave.
Allez, on passe au sujet d'après. Emmanuel Macron, qui est en train d'achever sa visite d'État en Allemagne. Alors, qu'a-t-il fait aujourd'hui? Eh bien, il s'est rendu ce matin à Münster, en Rhénanie du Nord, Westphalie, avant de regagner les alentours de Berlin pour un conseil des ministres franco-allemands, Guillaume.
Alors, on vous aurait volontiers fait écouter Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il est en train de tenir une conférence de presse avec le chancelier Olaf Scholz. Comment est-ce que vous regardez globalement cette visite d'État, la première d'un chef d'État depuis 24 ans? Bon, on est venu parler des sujets qui fâchent. L'Europe de la défense, l'Ukraine, les grands chantiers environnementaux, numériques, mais sans vraiment de vision commune, finalement.
On attend les points d'accord.
Après, moi, je pense qu'il faut vraiment... c'est essentiel de redonner de l'énergie et des points de concordance entre l'Allemagne et la France. Parce que là, on est en train de d'empêcher... La France et l'Allemagne s'empêchent de construire l'Europe. Et, parce que le point d'achoppement, c'est toujours le même sujet, en fait. C'est la vision complètement divergente des trajectoires des finances publiques.
Eh oui.
On sait que l'Europe a de l'argent. Que ce soit du secteur privé ou du secteur public, on a les moyens. On a des moyens de faire face à la concurrence à la fois chinoise et américaine. On a les moyens de faire concurrence à l'IRA. Pour autant, on ne peut pas se mettre d'accord parce qu'on a une vision complètement opposée de la façon dont on gère nos finances publiques. L'Allemagne est pour l'orthodoxie budgétaire, donc se dit
ça évolue quand même, hein. L'orthodoxie budgétaire, elle est un peu mise à mal en Allemagne.
L'efficacité de l'orthodoxie budgétaire, effectivement.
Oui,
ils ont clairement les conséquences. Oui. Mais pour autant, on voit le ministre des Finances allemand rester droit dans ses bottes en disant notre objectif, c'est retrouver les 60% de dette.
Comme quoi on arrive à se mettre d'accord, on apprend qu'Emmanuel Macron et Olaf Scholz se sont mis d'accord pour créer un produit d'épargne européen pour doper la croissance.
Des capitaux.
Voilà.
On y arrive.
Mine de rien, on va arriver à se rapprocher sur certains sujets quand même.
Oui, alors après, il faut voir un peu sur quoi, comment. Parce que normalement, dans le rapport de Christian Devoyer et l'ancien gouverneur de la Banque de France qui était en charge de ce groupe de réflexion, ainsi qu'Enrico Letta,
que vous avez reçu récemment.
J'ai reçu. C'était de dire, en fait, ça sera un label. Ça ne sera pas un seul produit, parce que ça serait difficile. Mmh. Il y aura un label européen. Bon, ça va pas forcément.
Ça montre bien aussi qu'au niveau des États, on n'est pas capable de s'entendre. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas faire appel à un fonds souverain commun, parce que l'Allemagne bloque, alors Macron arrive avec finalement, on va récolter l'épargne privée, hein, parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur une subvention à l'américaine, hein, avec l'Irak, et ce sont des subventions publiques. Nous, il n'y a pas de subvention publique possible à cause de l'Allemagne et de la France qui n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, maintenant, il y a une nouvelle voie qui est ouverte, c'est l'argent privé, donc l'épargne privée qui existe,
Il y a eu des initiatives sur la santé, il y en aura peut-être une sur la défense, il y en a eu sur le pacte vert, il y a quand même des grandes initiatives qui ont été lancées au niveau européen.
Le pacte vert, ça reste quand même un énorme échec. Hein. Mais en tout cas...
Par rapport
à ce qui était annoncé. Oui, c'est ça. On a parlé d'un éléphant et comme souvent, on a quand même accouché d'une souris. Maintenant, on comprend bien en effet que Paris et Berlin sont les moteurs européens pour avancer sur tous ces sujets environnementaux et puis financiers. Mais on a aussi, nous, des intérêts ultra stratégiques parce que si la France, elle commerce toujours encore beaucoup avec l'Allemagne, la réciproque est quand même beaucoup moins vraie. En 15 ans, la France est passée du rang de premier partenaire commercial de l'Allemagne à la quatrième place aujourd'hui.
Oui, la Chine.
Devancée par la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas.
Oui.
C'est quand même que les États-Unis viennent de passer devant la Chine.
Devant la Chine.
Premier partenaire commercial des Allemands, pour le coup.
C'est une logique pour une puissance exportatrice. Hein, absolument. C'est-à-dire la Chine était très importante. On a vu que ça devenait plus compliqué. Donc, ils se sont beaucoup tournés vers les États-Unis. Ouais. D'où l'importance. D'où aussi, à un moment où il y avait un bras de fer avec les États-Unis, la France n'était pas du tout sur la même longueur d'onde qu'Angela Merkel, si vous vous souvenez. À mon avis, ils ont dû beaucoup parler de la future Commission européenne.
Certainement, ça sera aussi gros sujet.
Avec un grand discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron à la jeunesse allemande contre la montée du nationalisme.
30 secondes pour un petit jeu qu'on va faire, je pense, d'ici la fin de la semaine. Standard & Poor's parle vendredi. Dégradation ou pas dégradation? Voilà, on lance les pronos là.
Moi, je m'attendais vraiment à une dégradation de S&P pour.
Le Fitch et Moody's le mois dernier
Du mois dernier. Oui. Avec Fitch, l'avait déjà de toute manière dégradé il y a un an, donc a priori, ça ne devait pas. Mais S&P, pour moi, devait arriver. J'ai dit S&P, donc c'est Moody's, pardon.
C'est Fitch et Moody's le mois dernier, c'est ça.
Je m'attendais à ce que Moody's emboîte le pas de Fitch. Et non. Bon, S&P, une semaine ou 10 jours des élections européennes, va peut-être pas jouer avec le feu. Ça va peut-être être une décision plus politique, donc ne pas bouger.
Parce que S&P, c'est la plus importante. Hein.
Oui, mais en même temps, c'est ce que disait un grand expert l'autre jour, que S&P, il regarde d'abord s'il y a une dégradation. Est-ce que si les marchés ont dégradé, notamment la note française, la dette française.
Et ce n'est pas le cas.
A priori, je dirais non.
Bon, ça tu coupes. C'est enregistré, comme on dit. C'est dans la boîte.
On
verra, on fera le bilan lundi prochain, évidemment. Voilà, 18h56, c'est terminé. Stéphanie va revenir avec nous dans un petit quart d'heure jusqu'à 20h. À tout de suite, Edwige. On se retrouve demain, 18h10.
Ouais. Alors, Stéphane Manigold, ça va être drôle déjà. Il est donc restaurateur. Il a 6 étoiles Michelin. Il a beaucoup de restaurants. Il est président de l'UMI pour le Grand Paris. Deux questions. Les restaurants, est-ce qu'ils vont être fermés à cause des Jeux Olympiques comme beaucoup d'autres? Et puis, la question aussi de l'assurance chômage. Il a piqué un coup de gueule chez le confrère de BFM TV pour expliquer nous, on est des métiers en tension, pas besoin d'assurance chômage.
Pas de bonus malus.
Pas de bonus malus.
Cotisation, effectivement, gros sujet. Stéphane Manigold demain, 18h10, 18h57 en attendant. Nous, on revient dans un instant.
Oui, on reste ensemble jusqu'à 20h, on est en direct. À tout de suite.
Tu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.